Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Suite à la mort de George Floyd, un noir tué par un policier blanc à Minneapolis, plusieurs villes des États-Unis sont le théâtre de manifestations parfois violentes et ont dû décréter un couvre-feu. Les manifestations sont aussi nombreuses à l'étranger. Les critiques de pays comme la Chine, la Russie, l'Iran et le Zimbabwe ont été dénoncées par le gouvernement de Donald Trump. Plus de 50 morts au Burkina Faso à la suite de 3 attaques en 48 heures. Pandémie du coronavirus, plusieurs pays rouvrent les écoles ou universités sur le continent, dont le Cameroun, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. La police a dispersé à coups de gaz lacrymogène dimanche soir près de la Maison-Blanche des manifestants contre les brutalités policières et le racisme. Plusieurs villes des États-Unis, théâtre de manifestations parfois violentes, ont décrété un couvre-feu. Eric Manirakiza.
Dimanche soir, de nouveaux affrontements ont opposé policiers et manifestants et des pillages ont été signalés à Philadelphie, New York, sur la côte Est et dans un centre commercial UP de Santa Monica, dans la banlieue de Los Angeles, à l'ouest. Un couvre-feu a été imposé à Washington, Minneapolis, Los Angeles et à Houston, dans le Texas, au sud. Selon le New York Times, le président Donald Trump a été mis vendredi soir à l'abri dans un bunker souterrain. Les violences ont gagné dès samedi soir de nombreuses villes américaines, dont Philadelphie, Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, Atlanta, Miami, Portland et Chicago. Des routes ont été coupées, des voitures et des commerces incendiés et des forces de l'ordre déployées en grand nombre ont répliqué par des gaz lacrymogènes et parfois des balles en caoutchouc. Partout, les manifestants ont scandé « Black Lives Matter », « La vie des Noirs compte », « I can't breathe », « Je ne peux pas respirer », reprenant les derniers mots de George Floyd, peu avant sa mort, le 25 mai, son coup sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis. À Saint-Paul, ville qui jouxte Minneapolis, des milliers de personnes ont réclamé que tous les policiers impliqués dans la mort de Floyd rendent des comptes. Pour l'instant, seul Derek Chauvin a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire et doit comparaître aujourd'hui devant un tribunal de première instance.
Nous avons Ben Dediou, un Sénégalais qui vit dans la région de Washington, qui était ce week-end parmi les manifestants devant le Congrès à Washington DC.
Moi, j'étais à la manifestation qu'on avait tenue le samedi devant le Capitole. Donc, ça s'est très bien passé, mais ce qu'on peut noter, c'est que l'indignation est toujours là. Les gens ne comprennent pas comment au 20e siècle, au 21e siècle, que ça puisse arriver toujours. En Amérique, dans un pays qui est censé être un pays de liberté, un pays de freedom, un pays de justice, un pays de démocratie. Et c'est l'indignation totale. Les gens ne comprennent pas. Mais les manifestations continuent à se tenir et puis... voilà, j'ai eu la chance d'en participer et puis je vais continuer à participer autant que je puisse.
Ouais. Alors, il faut dire que c'est pas les Noirs seulement qui manifestent, hein? Il y a tout le monde.
Ouais, écoutez, c'est tout le monde qui manifeste. En ce moment, il s'agit pas d'un Noir. C'est vrai que c'est un Afro-Américain qui a été lâchement assassiné, mais il s'agit pas d'un Noir. Dans un premier temps, il s'agit d'un être humain. Et quand on interpelle les êtres humains, il va de soi que toutes les personnes doivent s'impliquer et doivent être interpellées au même titre que les Afro-Américains.
Dimanche, le conseiller pour la sécurité nationale du président américain Donald Trump, Robert O'Brien, a dénoncé les commentaires critiques sur l'affaire George Floyd de la Chine, la Russie, l'Iran et le Zimbabwe, les qualifiant d'adversaires étrangers. Nathalie Barge.
Le Zimbabwe a convoqué l'ambassadeur américain à Harare pour dénoncer les commentaires de la Maison-Blanche. Le Zimbabwe ne se considère pas comme un adversaire de l'Amérique, a tweeté Nick Mangwana, secrétaire à l'information du gouvernement. La Chine a qualifié le racisme de maladie chronique aux États-Unis. Pourquoi les Américains traitent-ils en héros les partisans de la violence à Hong Kong et qualifient d'émeutiers ceux qui dénoncent le racisme, s'interroge Zhao Lijiang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Son homologue iranien Abbas Mousavi a également réagi lors d'une conférence de presse à Téhéran en disant « Arrêtez la violence contre votre peuple et laissez-le respirer » en écho aux derniers mots de George Floyd peu avant sa mort à Minneapolis. Il y a eu aussi des manifestations à Montréal, Paris, Londres et de l'autre côté du Pacifique en Nouvelle-Zélande contre les brutalités policières aux États-Unis.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Niger, une cinquantaine de djihadistes à moto ont attaqué hier le site de réfugiés maliens d'Intikane. Selon le HCR, le président du comité des réfugiés, le président du comité de vigilance des réfugiés et le représentant du groupement nomade de Tawanant ont été tués. Un gardien a également été enlevé par les djihadistes. Le magasin de vivres a été pillé et le système qui ravitaille la zone en eau potable dans un rayon de 40 km a été détruit. Située dans la zone de Tawa, proche du Mali, Intikane est une zone d'accueil de réfugiés où 20 000 Maliens vivent depuis 2013. En Afrique du Sud, la ministre de l'Éducation, Angelina Motshekga, s'est excusée aujourd'hui pour la confusion causée par le report à la dernière minute de la reprise des cours dans de nombreuses écoles. Selon les syndicats du secteur éducatif, les établissements sont mal préparés face à la pandémie du Covid-19. Jacques Aristide.
Les élèves de terminale et de dernière année de primaire étaient attendus en cours ce lundi après 2 mois et demi de fermeture des écoles pour cause de confinement. Mais hier soir, le gouvernement a finalement retardé la reprise, maintenant fixée au 8 juin prochain. La ministre Angelina Motshekga a fait état notamment de problèmes d'approvisionnement en eau de certaines écoles. Le président Cyril Ramaphosa a reconnu lui aussi le manque de préparation en affirmant que plusieurs partenaires, dont des enseignants et des parents, ont fait part de leurs inquiétudes. « Nous prenons les mesures pour répondre à leurs inquiétudes », ajoute le chef de l'État. La semaine dernière, les syndicats d'enseignants et la Commission sud-africaine des droits humains avaient demandé le report compte tenu de l'absence de matériel de protection dans de nombreuses écoles. Malgré tout, des écoles ont rouvert ce matin dans l'agglomération du Cap, dirigée par l'opposition. Des parents inquiets ont manifesté devant certaines d'entre elles pour dénoncer la reprise.
Les cours ont également repris aujourd'hui dans les universités de Tanzanie, malgré le manque de clarté sur l'évolution du coronavirus. De nouvelles installations pour se laver les mains ont été installées, mais les amphithéâtres sont bondés sans respect des distances de sécurité. Nous reviendrons sur la réouverture des écoles au Cameroun et au Sénégal dans la seconde partie de cette édition. Les autorités marocaines ont lancé aujourd'hui une application mobile de traçage des contacts par smartphone pour lutter contre la propagation du Covid-19. L'application envoie une notification à l'utilisateur en cas de proximité physique prolongée avec un autre utilisateur positif au Covid-19 et permet au ministère de la Santé de faire une évaluation du risque d'exposition, puis, le cas échéant, d'entrer en contact avec le cas notifié. La République démocratique du Congo a officiellement déclaré aujourd'hui une 11e épidémie de fièvre hémorragique Ebola avec la résurgence d'un foyer à Bandaka. Dans le nord-ouest du pays, cette nouvelle épidémie vient s'ajouter à celle toujours en cours dans l'est et à une envolée des cas de Covid-19. Les 4 décès ont été enregistrés dans un quartier de Mandaka, le chef-lieu de la province de l'Équateur. Une autre épidémie Ebola est en cours principalement dans le nord Kivu, qui a déjà tué 2280 personnes depuis août 2018. En Libye, les troupes du maréchal Khalifa Haftar, qui ont essuyé plusieurs revers ces dernières semaines, ont annoncé aujourd'hui avoir repris aux forces du gouvernement d'Union nationale la localité d'Al-Assabia, située à 120 km au sud-est de la capitale Tripoli. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Ekia Badou.
Le Cameroun au premier trimestre affiche un taux d'inflation de 2,6% contre 2,3% en glissement annuel. Cette variation du niveau général des prix des produits à la consommation sur le marché local était de 2,6% en février et de 2,5% au mois de janvier 2020. Bank of Africa, BOA Mali, qui enregistre une dégradation de son portefeuille crédit en 2019, connaîtra à la fin du second semestre une augmentation du capital de la filiale, a indiqué Abderrazak Zebdani, le directeur général adjoint de BOA Group. Il a par ailleurs fait observer que la crise du Covid-19 n'a pas eu d'impact sur les prévisions du groupe. Le groupe BOA, qui a dépassé la barre des 4 millions de comptes fin 2019, est premier en nombre de comptes avec une part de marché qui dépasse les 17% dans l'espace UMOA. La compagnie aérienne Emirates de Dubaï, la plus importante du Moyen-Orient, a annoncé dimanche avoir l'intention de procéder à des suppressions d'emplois en raison de la pandémie de Covid-19, mais sans en préciser l'ampleur. L'Association internationale du transport aérien a prévu que le trafic aérien au Moyen-Orient et en Afrique du Nord allait chuter de plus de moitié cette année.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les stars du sport dénoncent la mort d'un homme noir lors de son interpellation à Minneapolis, ici aux États-Unis. L'ancienne superstar de la NBA, Michael Jordan, a dénoncé le racisme enraciné aux États-Unis, se disant profondément attristé, véritablement en souffrance et totalement en colère. Nous en avons assez, a poursuivi Michael Jordan. Le joueur de Boston Celtic, Jaylen Brown, a conduit 15 heures pour participer à une manifestation à Atlanta. Selon Roger Goodell, dirigeant au sein de la Ligue nord-américaine de football, les rassemblements violents, je cite, « reflètent la souffrance, la colère et la frustration que tant d'entre nous ressentons ». La joueuse de tennis Serena Williams a posté une vidéo sur Instagram d'une jeune fille submergée par l'émotion s'adressant à une réunion publique. Je cite, « nous sommes des Noirs et nous ne devrions pas avoir à nous sentir comme ça ». Le Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, a lui dénoncé le silence des plus grandes stars de la Formule 1, je cite, « dominé par les Blancs ».« Je sais qui vous êtes et je vous vois », a déclaré Lewis Hamilton. Trois joueurs noirs de la Bundesliga ont aussi rendu hommage ce week-end sur les terrains allemands à Floyd. L'attaquant de Mönchengladbach, Marcus Thuram, a mis un genou à terre pour célébrer un but. Le Marocain de Dortmund, Achraf Hakimi, et son coéquipier Jadon Sancho, buteurs ce week-end, ont affiché un t-shirt portant l'inscription « Justice for George Floyd ». En Angleterre, le prêt à Manchester United d'Odion Ighalo, sous contrat avec l'équipe chinoise de Shanghai chinois, a été prolongé jusqu'à fin janvier 2021. Prêté cet hiver, l'attaquant nigérian devait normalement retourner fin mai en Chine, alors que le championnat d'Angleterre doit reprendre le 17 juin, le Super Eagle a inscrit 4 buts lors des 3 matchs qu'il a débutés entre le 27 février et le 12 mars avec les Red Devils. Sur le continent, au Mali, les joueurs du Djoliba Athletic Club de Bamako ont repris les entraînements après plus de 2 mois d'arrêt à cause de la maladie à coronavirus. Des précisions avec notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré.
C'est une décision prise par l'encadrement du Djoliba Athletic Club de Bamako. La maladie à coronavirus oblige, les entraînements concernent seulement l'équipe A pour le moment. Et afin de respecter les mesures de distanciation et les gestes barrières, l'équipe est divisée en sous-groupes, car tous les joueurs ne s'entraînent pas en même temps. Les entraînements qui viennent de redémarrer au Djoliba ont un seul objectif, a indiqué le coach Kwadio George. Il s'agit de permettre aux joueurs de rester en jambes en attendant l'annonce officielle de la reprise du championnat par le comité exécutif de la Fédération malienne de football. Pour rappel, la CAF avait demandé il y a quelques semaines aux fédérations membres comment elles comptaient boucler la saison 2019-2020. Compte tenu de la pandémie de la Covid-19, la FEMAFOOT avait annoncé qu'elle allait poursuivre le reste de sa saison. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au moins 50 morts dans 3 attaques en 48 heures au Burkina Faso et plus d'une vingtaine de blessés. Le nord, l'est et le centre-nord sont les régions les plus touchées. Le pays qui est confronté au nouveau coronavirus avec 53 morts doit faire face aux attaques terroristes. Les populations, elles, pensent que c'est le moment de s'unir pour faire face à l'insécurité. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Un week-end sanglant comme on n'a jamais vu cette année. Vendredi soir, un convoi de commerçants de retour du marché de Titao pour Solé dans la région du Nord est tombé dans une embuscade. Le bilan provisoire fait état de 15 morts, de blessés, des personnes portées disparues et d'importantes pertes matérielles, selon le gouvernement qui attribue l'attaque aux groupes armés terroristes. Samedi, le marché de bétail de Compiègne-Biga dans l'Est est attaqué par un groupe terroriste avec comme bilan provisoire 25 morts et plusieurs blessés selon toujours le gouvernement.
Une zone où des gens sont arrivés en tenue militaire burkinabé, avec les mêmes montures, avec pratiquement les mêmes armes, et ont encerclé le marché et ont commencé à fusiller.
Daouda Diallo, qui est porte-parole du CISC, collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, a des précisions de cette attaque.
Fusiller tout le monde, sans distinction d'âge, sans distinction de sexe. Aujourd'hui, on est plus que jamais interpellé. Parce qu'on ne doit plus se fier à l'apparence, l'habit ne fait pas le moine. Il faut désormais bannir la stigmatisation, bannir le déni de faciès.
Ce même samedi, dans le centre-nord, un convoi humanitaire est pris pour cible. Là, on parle de 10 morts, soit 5 civils et 5 gendarmes, une vingtaine de blessés et des personnes portées disparues, selon le gouvernement. Si les attaques se multiplient de cette ampleur, les populations restent optimistes que le pays s'en sortira.
Ça n'a pas commencé sur le Burkina. Il y a eu des pays qui ont subi plus que ce qui se passe au Burkina. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien là-bas comme attaque. Je suis sûr que le gouvernement burkinabé, un jour, va vaincre cette guerre.
Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ou de critiquer, ou de parler mal aux autorités. Moi, je crois que c'est le moment de s'unir, ensemble de soutenir nos FDS.
Les analystes pensent qu'il y a une réelle impasse dans la lutte antiterroriste au Burkina. Abdoul Karim Saïdou, politologue à l'université Ouagadougou.
Nous avons affaire à une violence qui est entretenue par des acteurs extérieurs, mais aussi qui est soutenue de façon tacite par des acteurs des Burkinabés, donc qui font partie des communautés locales et qui ont des difficultés pour accéder à un certain nombre de ressources naturelles telles que, par exemple, pratiquer la chasse, l'orpaillage, etc. Et donc qui sont en conflit depuis des années avec les pouvoirs publics, avec l'État. Donc ces attaques qu'on enregistre montrent que la dimension politique, économique et culturelle, communautaire, toutes ces dimensions du conflit, de la violence n'ont pas été suffisamment intégrées dans la riposte gouvernementale qui est principalement militaire.
Le gouvernement, lui, continue de rassurer à chaque occasion que quelque chose est fait pour lutter contre le terrorisme dans le pays et que les résultats seront bientôt visibles. Depuis 2016, le Burkina Faso est confronté à de nombreuses attaques terroristes qui ont fait plusieurs centaines de morts et des centaines de milliers de déplacés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. Au Cameroun, les élèves des classes d'examen et les étudiants ont renoué avec les cours ce lundi après près de 2 mois d'interruption à cause du Covid-19. Un retour à l'école qui s'accommode désormais de nouvelles habitudes pour limiter la propagation du nouveau coronavirus qui connaît déjà une évolution inquiétante. La rentrée au troisième trimestre à Yaoundé, c'est le reportage de notre correspondant Emmanuel Jeuntap.
Dans les rues, malgré la pluie, les élèves sont sur le chemin de l'école. Dans les établissements scolaires, comme ici au collège bilingue Yondo, le respect des mesures barrières est strict. Lavage des mains, port du masque, prise de température au thermoflash et distanciation sociale dans les salles de classe. Joséphine Ambombo, est élève en terminale A4 espagnol au collège Yondo.
Je suis très heureuse de reprendre les cours, de revoir mes camarades, malgré le fait que nous soyons très distants et que nous n'avons plus l'occasion de nous saluer comme avant.
Mais certains élèves, comme Stéphane Bicoy, lui aussi en terminale, ont dû braver la peur pour revenir à l'école. Il se dit néanmoins rassuré au vu des mesures qu'il a trouvées dans son établissement scolaire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
C'est mon initiative parce qu'ils prennent soin de leurs élèves et nous protègent contre la pandémie du coronavirus. J'ai eu beaucoup peur, très peur même. Mais souvent les conseils des parents et des amis, surtout que le diplôme, ça m'aide à travailler demain.
La maladie Covid-19 est une réalité. Des gens en meurent, effectivement.
Le principal du collège bilingue Yondo fait le tour des salles de classe pour rappeler les mesures barrières. Sur 52 élèves attendus dans les deux classes de terminale, seul un manque à l'appel. Au cours de ce troisième trimestre, la durée des cours va passer de 8 à 7 heures pour tous les élèves des classes d'examen. Apollinaire Ngoumou, principal du collège bilingue Yondo.
Les parents ont répondu favorablement à notre appel parce que nous avons joué au téléphone ou dans les foras pour leur dire « N'ayez pas peur, nous avons pris les dispositions pour que vos enfants soient en sécurité ici. » Ils ont compris et ils ont envoyé leurs enfants ce matin. Malgré la pluie, ils sont là, ils sont nombreux.
Les élèves du cours moyen deuxième année au cycle primaire subissent quant à eux un changement sur leur pause qui se fera désormais en salle. Le suivi pédagogique va connaître un coup d'accélérateur ici avant l'examen du concours d'entrée en sixième et celui du certificat d'études primaires. Selon le ministère de la Santé publique, le Cameroun enregistre en l'espace de 2 mois plus de 6000 cas positifs au Covid-19 avec moins de 200 décès. L'ambassade de France a décidé de ne pas rouvrir ce jour les écoles à programme français au Cameroun. Emmanuel Jelunta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou avec vous et je vous donne rendez-vous dans votre émission interactive À votre avis à 18h05 en temps universel. Au Cameroun, de nombreux journaux et débats radio et télévisés ont fait leur une sur la sortie de l'artiste Charlotte Dipanda. Je pense que l'état actuel est arrivé à bout de ce qu'il pouvait proposer au Cameroun et que humblement il gagnerait à céder la place à une nouvelle gouvernance. De plus en plus d'artistes expriment leurs opinions, leurs visions pour le pays. Certains se disent apolitiques alors que d'autres s'engagent politiquement, quand d'autres préfèrent s'engager de façon humanitaire. C'est le thème de notre discussion ce soir et un seul numéro pour participer, le 001 202 205 26 33. A tout à l'heure.
Au Sénégal aussi, malgré la hausse continue du nombre de cas positifs au Covid-19, les autorités ont décidé de maintenir la reprise des cours pour les classes d'examen de l'élémentaire, du moyen et du secondaire général prévues pour demain, le 2 juin. Peu convaincus, parents et enseignants semblent pourtant se résigner à laisser les enfants rejoindre les classes. De notre correspondant à Dakar, le reportage de Sedina Abagay.
À Dakar et un peu partout au Sénégal, l'inquiétude est le sentiment le mieux partagé à la veille de la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen. Les parents, comme Sohna Ndiaye, se sentent comme coincés entre le marteau et l'enclume.
Si on ne laisse pas les enfants aller à l'école, ils vont perdre l'année. Parce que c'est une décision collective, il faut laisser les enfants partir. Mais il y a le risque est là. Donc il faut prévoir ou bien peut-être repousser l'ouverture, attendre d'avoir les moyens pour pouvoir faire. Parce que là, c'est drastique.
Du côté des enseignants également, beaucoup ne sont pas rassurés, mais le sacerdoce de servir le savoir l'emporte sur les inquiétudes liées à la maladie. Cependant, cela ne les empêche pas d'être sur leur garde, comme le confie Mme Berthe Camara, enseignante au cours Sacré-Cœur de Dakar.
Il ne peut pas y avoir de satisfaction à 100%, mais ce qu'on demande, c'est que de part et d'autre, et je crois que la responsabilité est partagée, que chacun réponde à sa responsabilité et son engagement. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. On fera bien évidemment avec les moyens du bord et répondre aussi de ce qui se fera au jour, parce que le ministre de la Santé a été très clair. S'il y a un cas suspect, je crois que l'établissement ciblé sera automatiquement fermé.
Pour calmer les inquiétudes de tous les acteurs, les autorités affirment avoir pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité sanitaire des élèves et des enseignants. Khadijatou Diallo, inspectrice d'Académie de Dakar, détaille les conditions de la reprise.
Pour les mesures barrières, cela a été décidé d'octroyer aux enseignants et aux élèves 3 masques, de mettre des thermoflashs au niveau des établissements, de mettre des lavoirs, les lave-mains, du savon liquide, du gel hydroalcoolique. Donc ça, ce sont les dispositions sanitaires. Et au niveau pédagogique maintenant, dans les établissements, avoir des classes, des cohortes de 20 élèves seulement. Par exemple, si nous avons une classe physique de 60 élèves, elle est automatiquement scindée en trois sous-groupes de 20 élèves.
Malgré toutes ces assurances, les doutes persistent sur la capacité de l'État à doter tous les établissements scolaires de suffisamment de matériel pour une bonne prévention contre le COVID-19. Cependant, beaucoup d'observateurs estiment qu'il sera quasi impossible d'empêcher les enfants de se regrouper et d'interagir une fois ensemble dans la cour de l'école. À Dakar, Sidina Bagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les conditions météo défavorables ont d'abord retardé l'inévitable. Trois jours plus tard, le samedi 30 mai 2020, le ciel s'est dégagé et l'histoire était au rendez-vous. Au centre spatial du Cap Canaveral en Floride, la fusée SpaceX décolle avec à son bord deux astronautes américains. C'est une première depuis 2010. Nous faisons le point avec Lionel Gaïma.
Le partenariat public-privé de la NASA et de SpaceX a remporté un succès historique dimanche avec l'arrivée de deux astronautes américains à la Station Spatiale Internationale ou ISS. Environ 19 heures après son lancement depuis Cape Canaveral en Floride, la fusée Falcon 9 transportant la capsule Dragon est entré dans l'histoire. Depuis 2011, c'est en effet le premier vol dans l'espace effectué à partir du sol américain. C'est aussi la première fois qu'une entreprise privée comme SpaceX transporte des astronautes dans l'espace. Shaniqua Vereen du Centre Spatial Johnson de la NASA.
Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de vols spatiaux. Obtenir ces partenaires commerciaux et les préparer à emmener régulièrement nos astronautes à la Station Spatiale Internationale nous rend moins dépendants de nos homologues russes.
Depuis 2011, les astronautes américains se sont appuyés sur des fusées russes Soyuz pour se rendre à la Station Spatiale Internationale. Pour Shaniqua Vereen du Centre Spatial Johnson de la NASA, ce lancement réussi offre juste une autre façon de se rendre dans l'espace et ne signale pas la fin du partenariat avec la Russie, mais un nouveau départ.
Nous essayons essentiellement de relancer l'intérêt de l'Amérique et du reste du monde pour le programme spatial. Nous avons aussi Orion qui arrive et qui va lancer la première femme et le prochain homme sur la Lune et après cela sur Mars.
L'équipage de la capsule Dragon à bord de la fusée Falcon 9 devait décoller mercredi dernier. Les mauvaises conditions météo ont contraint le report du lancement à samedi. La mission de deux astronautes Doug Hurley et Bob Behnken dura environ 110 jours. La mission a obtenu le feu vert alors que le monde fait face à la propagation du coronavirus. Doug Hurley, l'un des astronautes, peu avant d'entrer dans la capsule Dragon.
Nous avons été pratiquement en quarantaine depuis le 15 mars dernier. Probablement, nous avons été le plus longtemps en quarantaine que tout autre équipage dans l'histoire du programme spatial.
C'est une nouvelle ère de vol dans l'espace qui commence. Keza Gyuk, directeur de l'astronomie au Planetarium Adler de Chicago.
Un lancement de navette coûtait environ un demi-milliard de dollars. Un SpaceX partiellement réalisable devrait atteindre environ 50 millions. C'est 10 fois moins cher, donc beaucoup plus d'opportunités pour nous.
Pour l'astronaute à la retraite Nicole Stott, cela veut aussi rendre l'espace plus accessible.
Je pense que le modèle commercial de l'une de ces sociétés qui travaille actuellement en partenariat avec la NASA dépendra d'autres activités spatiales qu'elles auront en dehors de l'acheminement des seuls astronautes de la NASA.
Alors que ces entreprises commerciales se concentrent sur le transport des voyageurs dans l'espace, la NASA n'a pas abandonné le développement de son propre système de lancement spatial et d'équipage. L'agence teste actuellement une fusée et une capsule de nouvelle génération qui pourront ramener les astronautes sur la Lune et peut-être plus tard les envoyer sur la planète Mars.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal.
Josel Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite